Bonsoir à tous, merci d'être là. C'est le premier débat dans cet espace débat, donc on est un peu excités et contents de vous voir tous et toutes présentes. Désolée pour le petit retard, on a encore une intervenante qui va arriver. Donc j'en profite juste pour vous dire quelques mots sur cet espace et sur la dynamique de cet espace, comment ça a fonctionné. Donc avec cette thématique, le déclin de l'Empire du Mal, on avait vraiment envie de pouvoir parler des questions de féminisme, des questions de genre, et de sortir aussi de notre approche centrée culturelle à nous, de pouvoir aussi s'ouvrir à d'autres horizons. On a donc voulu proposer ce soir un débat, une rencontre sur l'afroféminisme et le féminisme musulman que Bethel a accepté d'animer. Elle se présentera plus tard. Et alors un dernier petit mot aussi pour vous dire que cet espace, il est coordonné par Esperanza, mais aussi dans le cadre de la chaîne de vidéos Tout va bien, que vous avez peut-être eu l'occasion déjà de voir. Vous avez peut-être vu quelques capsules. Elle tourne aussi en boucle sur la petite télé qui est devant. Donc des parties, des extraits en fait de ce débat et des débats prochains seront après visibles sur la page Facebook de Tout va bien. Et donc ça vous permettra de les revoir. Les débats sont aussi enregistrés et diffusés sur la radio d'Esperanza. Voilà. Bethel, je te passe la parole.
Ouais. C'est pas si... Ah, ça fonctionne ? Ouais. Je vais juste laisser en fait les gens... Ok, donc bonjour à tous et toutes. Donc, je m'appelle Bethel, je travaille chez BIPAX, qui est une association d'éducation permanente sur le racisme et les discriminations. Et donc, oui, on m'a demandé aujourd'hui d'animer ou de modérer ce débat autour des questions d'afroféminisme et de féminisme musulman. Je vais laisser 2 secondes le temps aux intervenantes de se poser, qui viennent d'arriver. Mais je vais en profiter, en fait, pour les présenter. Donc, Aïchatou Ouattara, qui est ici à ma droite, donc, qui est diplômée en droit et en sciences du travail. Elle travaille actuellement donc, dans le domaine des ressources humaines et en juillet 2014, elle a créé le blog Afroféminista, donc je ne sais pas si vous connaissez, qui traite des thématiques liées aux femmes africaines et aux femmes afrodescendantes. Elle écrit aussi des articles sur des plateformes féministes et elle a aussi travaillé en collaboration avec l'association Aide Nancy sur des questions de menstruation et d'avortement. Alors, à côté d'elle, donc Ivoire de Rosen, qui est anthroposociologue et spécialisée dans les questions, les enjeux et les représentations relatives aux femmes afrodescendantes. Elle donne des cours au master en études de genre, donc à l'université. Elle est également conférencière internationale et formatrice sur les problématiques féministes et décoloniales. Et elle a fondé en 2015 Moinamke, qui est donc le premier collectif afroféministe belge. Et donc ici, à ma droite, Kenouji Gongolo, qui est elle aussi membre donc, du collectif afroféministe Moinamke, et qui est étudiante aux Beaux-Arts de Tournai, diplômée en sciences politiques et militante féministe intersectionnelle. J'espère que je n'ai rien oublié. Si jamais vous pouvez ajouter quelque chose. Alors, en fait, le débat va se construire comme suit, c'est-à-dire qu'on va vous passer des extraits du film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie. Donc, je ne sais pas si c'est un film que vous connaissez. C'est un film documentaire qui reprend des témoignages de femmes afrodescendantes sur des enjeux et des thématiques qui les touchent particulièrement. Ensuite, moi, je vais poser quelques questions aux intervenantes liées aux thématiques afroféministes et au féminisme musulman en général. Et par après, il y aura un moment d'échange avec le public. Alors, la toute première vidéo qu'on va vous passer maintenant, donc c'est une vidéo qui s'appelle « Noir à vie » et donc qui est extraite du film « Ouvrir la voie ».
Moi, j'ai compris que j'étais noire. C'était quand j'étais assez petite. Je me souviens que j'étais avec ma maman. Et donc, ma mère a la peau plus claire que moi. Et ma mère est une très, très, très belle femme. Et ici, une chose que j'adorais faire et que j'aime toujours faire maintenant, c'est me poser dans la salle de bain pendant qu'elle se maquille et la regarder se maquiller. Et donc, je la regardais pendant qu'elle mettait son rouge à lèvres, son crayon, son mascara. Et je lui ai demandé, je fais « Ah, maman, en fait, quand je serai grande et que je serai blanche et jolie, est-ce que je pourrais me maquiller comme toi ?» Et puis là, elle m'a regardée très bizarrement et elle fait « Mais tu seras pas blanche !» J'ai fait « Ah bon ?» Parce qu'en fait, dans ma tête, il y avait, je pensais qu'on commençait, enfin que c'était comme ça pour nous, c'est qu'on commençait par être tout foncé et qu'on plus on grandissait, plus on avait la peau claire. Mais tout ça, c'est juste parce qu'en fait, mon petit frère a la peau plus foncée que moi, mon grand frère a la peau plus claire et que ma mère a la peau assez claire. Donc pour moi, en fait, c'était tout un parcours logique où on passait du stade du plus foncé au plus clair. Et donc, comme ma mère était très jolie et que je me trouvais très moche, je pensais que en grandissant, on devenait blanc et donc on venait joli. Donc voilà. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que non, j'étais noire et que j'allais rester tout le temps noire à vie.
Voilà, moi j'aimais bien cette vidéo comme introduction justement pour ce débat. Qu'est-ce que donc vous pouvez dire sur l'afroféminisme et le féminisme musulman ? Ou si vous voulez réagir à ce que la personne vient de dire.
Du coup, je me représente, Kenouji, et je pense que je vais directement réagir à... Je vais te tutoyer à ta notion de ce qu'est le féminisme musulman. Enfin... Ouais, parce que. Oui. Oui, oui. C'était pas une attaque, hein. Ok. Bah du coup, je vais essayer de poser un cadre, en fait. Et commencer par parler de ça au pluriel en fait, et parler des féminismes musulmans plutôt qu'un féminisme musulman. Et je laisserai mes collègues peut-être plus revenir sur la notion d'afroféminisme. Et en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que, par exemple, les féminismes musulmans, comme ils sont vécus en France et comment ils sont vécus à l'étranger, c'est pas du tout la même chose. Parce que tu as fait mention du culturel et du spirituel. Et pour m'être interrogée en fait sur l'existence de ces concepts, c'est que à un moment donné, il y a des femmes en France en fait qui se sont plus retrouvées dans le féminisme dit mainstream en fait, le féminisme blanc, dans le sens où par rapport à leur identité, leur choix spirituel, leurs croyances, leur apparence physique en fait, elles étaient exclues des luttes physiquement ou verbalement, dans le sens où ben voilà, quand tu portes un voile et que tu te présentes, je vais pas donner de nom, dans des mouvements féministes, et ben en fait tu peux subir en fait une violence verbale. Et du coup en fait, je comprends ce que tu dis par t'as parlé de petits mouvements, mais c'est pas si récent que ça. Il y a des études qui sont faites, il y a des sociologues qui bossent sur ça. J'ai oublié son nom, c'est génial. Zahra Ali, qui est une sociologue française en fait et qui a écrit un livre justement sur les féminismes musulmans pour expliciter ce besoin en fait de femmes issues de l'immigration de se réunir entre elles en fait parce qu'elles se sentaient exclues du mouvement mainstream. Je me perds un peu du coup.
On parlait donc, bon, il donnait un petit peu une sorte de définition au féminisme, mais si tu veux, après je vais donner la parole maintenant soit à Aïchatou, soit à Ivoire.
Alors, merci Kenouji déjà pour ce que tu as dit, merci pour votre intervention. Alors peut-être quand vous avez évoqué le fait que ça commence, ce que je voudrais dire c'est plutôt que ces derniers temps, en particulier depuis 2016, il y a eu un grand intérêt médiatique. Et donc la question a commencé à être visible et audible dans l'espace public, donc des féminismes musulmans ou des afroféminismes. C'est peut-être ça, je dirais, la différence. Mais si on parle des mobilisations des femmes de confession musulmane, des femmes afrodescendantes, elles ont toujours existé en réalité. Donc il n'y a même pas de date pour noter, je dirais, dans un cadre spatio-géotemporel, un moment. Puisque je pense que ce qui est important quand on parle ici de lutte, c'est que quand des femmes se mobilisent, quand elles échangent sur des sujets qui les concernent, sur des problématiques auxquelles elles sont confrontées, il y a déjà de la mobilisation, donc il y a déjà une forme d'activisme. On peut déjà entendre ce qu'on appelle... Ces réunions dans les cuisines de nos tantes, de nos grand-mères, de nos mères, c'était déjà des formes de mobilisation. Maintenant, par rapport à, pour répondre à la question de l'afroféminisme francophone, c'est vrai qu'il y a eu un gros essor par rapport au premier collectif qui s'est revendiqué politiquement de la sorte en France, qui est Moissy, le collectif afroféministe donc, qui a son siège à Paris. Et donc, avec Mouanamke, qui a été fondée en 2015, c'était aussi le premier collectif qui s'est revendiqué politiquement de l'afroféminisme. Alors quand on dit politiquement, ça veut dire que c'est un afroféministe qui s'inscrit dans des luttes d'antiracisme politique. Donc il y a vraiment cette dimension collective qui est importante. Par contre, si on parle des mobilisations des femmes afrodescendantes, pour parler plus particulièrement de la Belgique, puisque c'est le pays qui nous concerne, il faut savoir que c'est à partir des années 90, et plus particulièrement au courant de l'année 90, qu'il y a eu la première association de femmes africaines qui a été enregistrée au Moniteur belge. C'était l'association La Zaïroise et ses sœurs, fondée par maman Yvette, et donc qui a été une association qui a fait un grand boom. Mais c'est une association de femmes afrodescendantes, et donc on va dire que leur terrain d'action était assez différent que ceux, par exemple, de notre collectif aujourd'hui.
Merci. Achatou ?
Je vais rejoindre un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, je ne peux pas parler du féminisme musulman parce que je ne suis pas féministe musulmane, donc je ne peux pas parler de ça. Mais effectivement, c'est vrai que c'est depuis 2015-2016, on parle beaucoup d'afroféminisme, de féminisme musulman, des féminismes et de féminismes qui concernent les femmes non blanches. Et on en parle comme de quelque chose de nouveau, comme quelque chose qui n'existait pas avant, comme si en fait, voilà, les femmes non blanches en fait avaient attendu 2015-2016, donc le 21e siècle, en fait, pour se mobiliser. Comme Ivoire l'a dit, effectivement, c'est des mobilisations qui existent depuis tellement longtemps que voilà, on ne peut pas vous citer de date, mais qui remontent. Moi, je parle pour les femmes noires. Voilà, il y a eu des mobilisations de femmes à l'époque, aux époques esclavagistes, à l'époque coloniale, et même déjà à l'époque précoloniale, les femmes avaient énormément de pouvoir dans l'Afrique précoloniale. Donc, les femmes noires n'ont pas attendu 2015 ou 2016 pour mener des luttes pour acquérir leurs droits ou pour leur émancipation, pour leur libération. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de le dire. C'est bien que ça ait été dit ici parce qu'on a cette impression, en fait, que ces mouvements sont nés. Pourquoi ça a été dit? Parce qu'il y a une remise en cause du féminisme mainstream, donc du féminisme blanc, qu'on considère qui s'est construit, en fait, de manière assez hégémonique, donc qui a été porté par des femmes blanches de la classe bourgeoise, hétérosexuelle. Et donc, forcément, les femmes qui ne rentraient pas dans ce cadre-là ne se sont pas reconnues. Et donc, on contestait ça. Et cette contestation, cette remise en question du féminisme mainstream, elle n'est pas contemporaine. On en entend beaucoup parler parce qu'il y a eu, voilà, comme ça a été dit, l'essor de plusieurs collectifs en France, en Belgique francophone. Il y a eu, voilà, sur les réseaux sociaux, beaucoup d'afroféministes qui se mobilisent et qui font de plus en plus entendre leur voix grâce à ces canaux-là. Mais par exemple, chez les femmes noires, eh ben, on peut se rendre compte déjà que déjà depuis les années 60, déjà depuis les années 50, il y a déjà des féministes afro-américaines qui ont remis en cause le féminisme blanc. En Afrique, après les indépendances, vous avez aussi des femmes africaines qui ont remis en cause le féminisme blanc. Donc, en fait, tout ça, ça participe, en fait, à une longue histoire, à une longue tradition de lutte, de résistance, qui ne fait que se perpétuer. Donc, en fait, les afroféministes d'aujourd'hui, elles n'ont rien inventé. On s'inscrit dans une longue tradition de lutte, de résistance et de combat. Voilà.
Merci. Oui, tu veux ajouter ? Oui, oui.
Je voudrais revenir, en fait, sur... les féminismes musulmans et sur quelque chose qui a été dit qui peut être un facteur commun, en fait, entre l'afroféminisme et les féminismes musulmans, qui est la notion d'essentialiser l'autre, en fait, et de réduire l'autre à des fantasmes. Et donc, concernant la femme voilée, il y a des mouvements qui ont émergé parce qu'en fait, on voulait aussi déconstruire l'image d'une femme musulmane qui ne travaille pas, qui reste chez elle, qui est soumise. Et il y avait la volonté de montrer que ben, ce n'était pas que ça. Et au-delà de ça, aussi, comment dire, par rapport à la question du port du voile, en fait,
Je pense que, enfin, moi je parle en mon nom vu que je suis concernée, vouloir faire le distinguo entre ce qui se passe ici et ce qui se passe à l'étranger. C'est-à-dire que je suis une femme musulmane en France et pas au Yémen et pas au Mali et que du coup les réalités ne sont pas les mêmes. Et du coup, en fait, moi je vais me battre pour pouvoir porter un voile et travailler avec, alors que peut-être que mes sœurs à l'étranger en fait se battent pour l'inverse. Mais pour moi, la lutte elle est commune dans le sens où on se bat pour. Une liberté en fait au niveau de la para, et je pense que le tronc commun c'est aussi ça, c'est en fait lutter contre la réduction permanente qui est faite sur nos corps et nos identités.
Merci beaucoup. On va directement en fait enchaîner avec la deuxième vidéo qui s'appelle Ils ont fait une grève et qui va déjà faire un petit peu écho à ce qui a été dit ici.
Non. Voilà. Je ne sais pas, on aura peut-être l'occasion d'y revenir par rapport à ce qui a été dit, les propos qui sont évoqués dans le passage. Est-ce que je peux faire un petit commentaire ou on
oui,
pourra...
tu peux. Oui, oui, oui. Pas de souci.
Donc c'est vrai, c'est assez frappant hein, ce que dit l'interviewé, mais c'est important de le dire. Quand on parle des femmes afrodescendantes, il y a toute cette réflexion sur le corps. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir dans quelle mesure le corps vient cristalliser toute une série de tensions, identitaires, mais également politiques. On voit donc cette jeune fille qui se dit que, en fait, quand elle va grandir, elle sera blanche. Et donc, ça vient aussi souligner une dynamique qui s'appelle la pigmentocratie, donc qui est la hiérarchisation selon le degré de la couleur de la peau, selon le degré mélanique. Et en fait, c'est une dynamique donc qui renvoie à du racisme politique qui date de la période esclavagiste et coloniale. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on trouve l'incidence et l'ancrage de ces pratiques vraiment de manière quotidienne à travers un phénomène qu'on appelle aussi le colorisme. Donc c'est le fait que les personnes plus claires de peau dans les communautés afrodescendantes jouissent d'une série d'avantages et de privilèges en termes de représentation, même en termes de crédibilité, et que ce sont c'est souvent ces personnes-là qui sont les plus visibles. Et donc c'est un petit peu c'est une dynamique qui est clairement évoquée dans cet extrait et qui renvoie aussi à toute la question des critères de beauté et des standards de beauté, à quel point en fait ils sont et ils restent dans les sociétés très eurocentrées.
Merci. Mais en fait, du coup, on ne va pas passer la deuxième vidéo, parce que je pense que ce sera vraiment intéressant de garder un temps d'échange après. Par contre, moi, j'avais une question pour toi, Aïchatou, donc qui a ton blog, enfin avec ton blog Afroféminista. Donc, tu as trouvé, voilà, le moyen de faire entendre via tes articles et tes publications ta voix. Est-ce que c'est compliqué dans la société actuelle, voilà, en tant que femme noire, de trouver une tribune, de trouver, de pouvoir faire entendre sa voix sur des thématiques qui nous touchent?
Moi, je dirais oui et non. Non, ça n'a pas été difficile, de commencer mon blog. Moi, je l'ai fait comme ça a été dit. Je l'ai ouvert en juillet 2014 parce que je considérais que les femmes noires étaient ou les problématiques qui concernaient les femmes noires n'étaient pas assez adressées dans le féminisme mainstream. Et j'avais envie de m'exprimer là-dessus. Je trouvais qu'il y avait à l'époque quand j'ai commencé, on parlait pas beaucoup d'afroféminisme, mais il y avait très peu de. Ok, pardon. Ok, d'accord. Il n'y avait pas beaucoup de blogs francophones, en tout cas, qui traitaient de ce sujet. Donc, non, ça n'a pas été difficile parce que quand j'ai commencé, voilà, j'ai reçu des retours qui étaient positifs de certaines personnes qui disaient que ça fait du bien d'entendre de parler de certaines problématiques sous un autre angle, sous un autre aspect, puisqu'effectivement, comme je suis noire, ben, voilà, j'ai une perspective différente d'une femme blanche. Mais d'un côté aussi, ce n'est pas évident, parce que quand vous êtes une femme noire et que vous décidez de prendre la parole sur des sujets aussi sensibles, entre guillemets, que sont le sexisme et le racisme, vous devez vous attendre de toute façon à recevoir des critiques. Et les critiques, elles sont venues. Des insultes, tout ce genre de choses. Parce que voilà, quand on parle de ces sujets, ben forcément, on remet en cause l'établi. On remet en cause le patriarcat quand on parle de sexisme et on remet en cause voilà, la suprématie blanche plutôt quand on parle de racisme. Donc voilà, moi j'ai eu voilà, des remarques parce que moi j'ai toujours été assez critique par rapport au féminisme mainstream que je trouve qui se veut universaliste mais qui ne l'est pas, qui veut imposer aux femmes non blanches une manière de, d'être féministe, des manières de vivre leurs conditions de femmes sans tenir compte en fait de leur... sans tenir compte en fait de leur contexte traditionnel, de leur vécu, de leurs expériences propres, et surtout sans tenir compte du fait de la position dominante dans laquelle ces femmes-là se trouvent. Et voilà. Et d'un autre côté, en tant que femme noire, parler de certains sujets qui sont liés au sexisme, mais qui sont propres à ma propre communauté, c'est m'exposer aussi à une forme de critique. Mais moi, je prends ça avec beaucoup de distance parce que de toute façon, je m'y attendais. Et je pense que voilà, la parole doit être libérée. Il est nécessaire de s'exprimer sur ces questions-là parce que voilà, ça participe à une forme d'émancipation. Moi, je pense que la parole, elle libère, elle émancipe aussi. Et tout ça, donc, c'est dans une continuation, dans une continuité, pardon, de libération, voilà, de nos paroles et de réappropriation aussi de nos histoires, de nos narrations. Parce que pendant longtemps, voilà, les femmes noires, on a beaucoup parlé à notre place, on nous a beaucoup essentialisées. Quand on regarde en Europe, le stéréotype qu'on a sur la femme noire ou la femme africaine, c'est un stéréotype qui est assez déshumanisant, qui est assez infantilisant. Donc c'est une femme qui devrait être aidée, qui n'est pas capable de se prendre en main, qui a besoin qu'on lui explique comment se libérer, qui a besoin qu'on l'aide. Et bien moi, j'ai envie de dire, les femmes noires, elles n'ont pas besoin d'être sauvées, elles sont capables de se sauver elles-mêmes. Et elles sont capables de trouver en elles-mêmes les moyens, les armes, les outils pour s'émanciper. Voilà.
Du coup, maintenant, on va enchaîner avec une vidéo donc, qui s'appelle « C'est quoi ta distance ?»
Je pense qu'ils devraient apprendre à laisser les gens qui vivent les choses parler de ces choses-là, faire des études dessus et de parler. Voilà, en sciences sociales des religions, c'est pareil, hein. Il y a beaucoup de sujets sur l'islam. Mais pareil, c'est des blancs qui en parlent. Ce n'est pas forcément des musulmans qui prennent les sujets qui en parlent. Et quand tu oses en parler, parce qu'en plus on suppose juste que tu es musulman, on te demandera toujours c'est quoi tes distances par rapport au sujet quand même. Tes distances. Tiens, le blanc ne lui demandera pas ses distances. C'est lui, il est légitime pour en parler. Toi, on va te demander, ouais, mais quand même, tu es beaucoup trop dedans. Donc je pense que c'est le système qui est fait de telle sorte que le blanc, lui, il est toujours extérieur, donc il a un œil extérieur où il peut parler des choses. Et c'est valorisé d'avoir cet œil extérieur. Toi qui le vis de l'intérieur, non mais t'es trop impliqué, tu vois. T'es trop impliqué pour en parler. Donc vaut mieux laisser la parole à quelqu'un qui est extérieur, qui au moins prendra des distances, n'aura pas beaucoup de ressentiments, beaucoup de...
Dépassionné,
exactement. Nous, on est toujours passionnés hein, pour parler des choses.
Voilà, en fait, donc, je vais un petit peu rebondir donc, sur cette vidéo pour demander aux membres du, coup, du collectif Moinamke comment s'est passée du coup, la création de ce collectif. Est-ce que vous avez entendu justement des propos du style vous ne prenez pas de distance, vous êtes trop impliqué dans ce sujet, c'est quelque chose qui vous concerne de trop, vous n'arriverez pas à être objective, etc. Est-ce que vous avez eu des bâtons dans les roues voilà, quand vous avez décidé de mettre en place ce collectif ?
Alors, oui, la question de la distance, enfin, bon... Moi, je pense qu'il n'y a pas de distance, en fait. Dès qu'il y a de la relation, dès qu'il y a de l'implication, dès qu'il y a de l'interaction, voilà, il n'y a pas de distance, je pense. Et souvent, oui, on parle de neutralité ou des choses comme ça, mais pour moi, c'est des questions assez abstraites. J'ai un parcours d'anthroposociologue, j'ai des consoeurs avec qui j'ai étudié qui sont dans la salle, etc. Donc, on est d'office impliqués, en réalité. Ce qui est important de dire, effectivement, quand on a fondé le collectif, on a eu des bâtons dans les roues. Aïcha Tou était avec nous quand on a débuté et on s'est fait littéralement bâcher sur les réseaux de toutes les façons, que ce soit collectivement, individuellement et dans un collectif, c'est très dur parce qu'on est exposé. On est exposé devant, on est visible, c'est éreintant, il faut renouveler son énergie. Donc l'activisme est vraiment une sphère compliquée. Alors pour répondre à ta question plus précisément ici, être afroféministe, je dirais que c'est le pire peut-être. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les sujets dont on va parler dérangent les femmes blanches, dérangent certaines femmes musulmanes, dérangent les hommes, dérangent les hommes noirs. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement sensible où organiser notre lutte, est compliqué, vraiment. Donc effectivement, nous, ce qui nous motive, c'est plus parce qu'on le voit comme une raison d'existence, notre afroféminisme, puisque pour nous, c'est une façon d'exister réellement. Mais c'est sûr, Ndella est une amie, et on parle souvent, on réfléchit souvent ensemble. Et c'est vrai qu'on est dans une posture où finalement, vu que on cristallise pas mal d'enjeux au niveau de nos revendications, eh bien, on doit s'imposer sans compromis, quoi. Et donc, on est vraiment dans des stratégies où on s'impose, où on arrache la parole qu'on veut nous enlever, parce que c'est vrai qu'on est, on est souvent silencieux. Donc, c'est pas évident. Maintenant, et je reprendrai les propos de Ndella, quand on a aussi des pistes de collaboration, hein, bien sûr, on a des personnes avec qui on crée des ponts, on a ce qu'on appelle des alliés, même si Della utilise un mot et qui est intéressant, elle dit on ne veut pas des alliés, on veut des complices, ça veut dire passer à un niveau supérieur dans comment contribuer à nos luttes. Et donc, ça va, on s'arrange quand même.
Tu voulais revenir sur le film? Oui.
Ok. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire qu'on a balancé des images et puis on n'a pas du tout introduit le film, ni la réalisatrice. Et du coup, en fait, Ouvrir la voie a été réalisé par Amandine Gay. Et le film, il est projeté depuis moins d'un an, je pense, en salle en France et en Belgique. Et Amandine Gay, en fait, a choisi le collectif Monamke pour porter la projection en Belgique. Et du coup, enfin, je ne peux pas parler en son nom, donc j'essaye juste de traduire ses objectifs. C'était quand même de dépeindre une pluralité en fait de femmes noires dans leur quotidien. Et du coup, on en revient à cette notion d'essentialisation et de déconstruire en fait l'idée qu'elles seraient uniques et puis une panthère sexuelle et tout ce qu'on veut. Mais justement, là, il y a une, je ne connais pas son nom, donc l'intervenante, elle a utilisé un mot, ou du moins elle a fait plus ou moins référence à la notion de susceptibilité. Et c'est super intéressant parce que les concernés, on est toujours trop susceptibles en fait. Et apparemment, on est les moins bien placés pour parler de ce qu'on vit. Et ça, c'est super compliqué à faire entendre à l'autre. Et il y avait aussi la notion de, enfin, tu l'as dit, voire de représentation. Je pense qu'Amandine Gay, un de ses objectifs aussi, c'était de nous rendre visibles. Et à titre personnel, moi, ça me fait du bien de regarder un film de 2 heures avec plus de 15 femmes noires différentes et de me retrouver malheureusement dans leur discours, parce qu'en fait, ce qui les réunit, c'est des souffrances et c'est de la discrimination. Mais en même temps, de me dire, OK, je ne suis pas parano, en fait, je ne vis pas ça toute seule et on est pluriel. J'avais un fil conducteur. Et du coup, oui, par rapport à la notion de représentation, c'est quelque chose qui est important dans le sens où, à différents niveaux de vie, je sais pas, moi j'étudie aux Beaux-Arts, j'ai aucun prof noir, en fait, homme comme femme. On est moins de 10 personnes non blancs. Donc à un moment donné, ces faits, ils existent et c'est important de les citer. Et on parle pas dans le vent. Et je ne sais plus là où je voulais en venir, mais du coup, je vais m'arrêter là.
Merci. Oui.
Je voulais juste rebondir en fait sur l'extrait dans lequel je me reconnais tout à fait en fait, parce que quand on est une personne et qu'on est noir ou qu'on est non blanc en général, on est forcément toujours délégitimé en permanence sur les choses qu'on vit au quotidien. Et ça, c'est très oppressant. C'est-à-dire que quand vous êtes noir et que vous parlez du fait que vous vivez du racisme, on va toujours remettre en question la réalité, la véracité de ce que vous dites. Et vous êtes obligé, moi j'ai déjà vécu, je suis obligée de convoquer des études internationales, des statistiques, ou le fait qu'une personne blanche était présente quand l'incident s'est produit pour que ma parole alors soit légitime. Et ça, c'est quand même grave. Ça veut dire que je pense qu'il n'y a que dans le sexisme, dans le racisme, dans toutes les formes d'oppression, je pense, où les personnes qui sont victimes sont de facto délégitimées. Elles ont besoin d'être forcément adoubées par les personnes qui appartiennent au groupe majoritaire pour être validées. Et donc, ça ne fait que montrer en fait toutes les dynamiques d'oppression raciale et sexiste et autres qui existent dans ce pays. C'est quand même c'est quand même très très grave, et ça demande une force mentale, une résistance assez, assez importante pour résister, parce que vous vous imaginez, vous êtes victime de racisme, vous savez déjà qu'on ne va pas vous croire. Vous êtes obligé de dire oui, non, mais c'est, telle personne l'a dit dans un ouvrage, telle, une personne blanche évidemment, parce que si vous convoquez même un intellectuel qui est noir, on vous dira que oui, vous n'êtes pas capable. Or que moi, je pense que nous, en tant que noirs, bah, nous sommes les plus à même, nous les personnes noires et nous les personnes non blanches, nous sommes les plus à même de parler de racisme parce que c'est notre quotidien. Nous sommes nous-mêmes les experts de notre propre vie. Donc je ne comprends pas comment ça se fait qu'une personne qui ne vit pas ça au quotidien, quelle que soit sa fonction, son rôle, serait plus légitime que moi pour parler de ce que j'ai au quotidien.
Oui, voilà, c'est vraiment ce que Ndella dit aussi dans l'extrait par rapport aux femmes musulmanes. Alors, comme le temps avance, je suis désolée, moi j'avoue j'ai encore plein de questions à vous poser, mais j'aimerais bien qu'on prenne quelques questions dans le public ou des réactions, si vous en avez. On va faire passer un micro. Oui, super. Attendez, parce qu'en fait, on vous entend pas.
La question, c'est que j'ai jamais entendu vraiment les raisons du port du voile
féministe. Enfin, et c'est vraiment un truc, et j'étais contente quand j'ai vu qu'à Esperanza, il y avait ça. Je me suis dit, ah bah, je vais pouvoir poser la question. Donc voilà, j'ai cette question-là, quoi. Enfin, le port du voile féministe, à quoi ça correspond?
Merci. Une dernière question.
Moi, j'ai une question plus par rapport à votre organisation, la manière dont vous fonctionnez. C'est de savoir, moi, je connais un petit peu le monde associatif et je sais que pour pouvoir aider ces femmes à prendre la parole, à prendre un espace public, il y a tout un apprentissage, il y a l'émancipation, elle passe aussi par de l'éducation parce qu'elles n'ont peut-être parfois pas l'habitude de prendre la parole en public. Il manque parfois une base théorique, etc. Donc je voulais savoir comment vous organisez ça, si c'est simplement les aider à prendre place, ou il y a des choses qui sont organisées pour pouvoir les aider justement à pouvoir s'exprimer, à prendre position, mais la même que la vôtre, pouvoir se défendre, mais peut-être pas en demandant l'aide d'un tiers, mais parfois seul aussi en argumentant, on peut aussi prendre position. Et donc parfois ces femmes ne savent juste pas le faire, par manque de confiance en elles ou autre.
Merci. Qui veut réagir? Oui.
Je peux bien réagir si mon micro fonctionne. Je vais essayer de répondre à la première question. Alors en fait, si je suis honnête avec toi, ben en fait, moi j'ai pas à parler à la place des femmes africaines qui vivent en Afrique. Enfin, je trouve que c'est du coup maternaliste comme attitude. C'est-à-dire que mes sœurs, elles ont un cerveau et elles savent l'utiliser. Donc je vais pas leur dire comment lutter. Et au mieux, on va collaborer ensemble. Donc j'entends ce que tu veux dire. Et par rapport à l'utilisation du mot noir, bah, en fait, je suis française et noire. Et ouais, j'ai des origines supposées. Et du coup, je comprends plus ou moins ce que tu veux dire. Mais moi, dans mon positionnement, c'est ben, si on milite pour la parole aux concernés, se réapproprier la parole, et ben, je ne vais pas dire à mes sœurs maliennes comment elles doivent lutter, parce que je leur fais confiance. Et du coup, juste, voilà, on va peut-être collaborer. Et peut-être que Ivoire et Aïchatou voudront répondre après. Et enfin, tu pourras réagir. Et pour la question quant au port du voile féministe, je ne sais plus trop comment tu l'as formulé. Eh bien, en fait, on n'est pas, enfin, ce n'est pas un cours de théologie. Donc, en fait, je ne dois pas justifier en fait pourquoi islamiquement une femme devrait porter un voile ou pas. En fait, je comprends pas trop ta question parce que j'ai l'impression que tu es en train de me demander si finalement ça se justifie de porter un voile. Je sais pas en fait. Moi, je te demande pas pourquoi tu n'en portes pas ou pourquoi quelqu'un a des cheveux roses ou le crâne rasé. Ou en fait, c'est un choix religieux et ça s'arrête là. Et je sais pas comment mieux expliciter ça, mais en fait, c'est-à-dire que c'est un choix vestimentaire ou spirituel, et donc si c'est spirituel, ben c'est spirituel, c'est pas un cours de théologie. Du coup, voilà.
Merci beaucoup, Kennedy. Je voulais juste compléter ce que Kennedy a dit par rapport à votre intervention. Alors évidemment, je rejoins tout à fait sa posture, mais je voulais faire le lien par rapport à comment peut-être justement trouver des pistes de collaboration. Donc, par exemple, pour ma part, j'ai mené un séminaire de réflexion en Guinée, à Conakry, avec le collectif donc, porté par une jeune militante qui s'appelle Adja Idrissaba, qui est très engagée là-bas pour tout ce qui concerne la question des mariages préférentiels, des mariages forcés, des mutilations génitales féminines. Et donc ici, nous, c'est plutôt une opportunité de créer un pont et de voir comment, à notre niveau, en tant que collectif afroféministe belge, on peut être le porte-voix et le relais des revendications de leur combat là-bas. Parce que, comme Kenji l'a dit, on n'a rien à leur apprendre. Elles sont extrêmement pointues, organisées dans leur façon de penser leur lutte, se mobiliser. Elles sont très jeunes, c'est un collectif très jeune, et elles sont juste impressionnantes. Je dirais même que nous, on a à apprendre d'elles, en fait.
Merci. Aïchatou, oui.
Oui. Donc moi, je suis d'origine africaine, donc je m'intéresse à la condition des femmes en Afrique. J'en parle un peu sur mon blog. Maintenant, c'est vrai que, comme ça a été dit ici, voilà, c'est pas aux femmes noires, les femmes noires d'Occident et les femmes noires africaines du continent, on vit des expériences quand même différentes, parce que nous aussi, on vit des expériences qui sont de racisme. Et sur le continent africain, bah, les femmes ne vivent pas le racisme pour des raisons évidentes. Donc forcément, il y a des différences. Mais moi, je pense réellement qu'on peut trouver des points de convergence. Donc il y a quand même, il peut y avoir des similitudes, parce que ici, nous, les femmes noires, on subit aussi des oppressions, mais dans nos propres communautés. Et ces oppressions qu'on subit dans nos propres communautés, elles sont parfois semblables à celles que les femmes subissent sur le continent. Donc moi, je suis d'accord avec ce qu'Ivoire a dit. Je pense que c'est important de faire des collaborations avec les femmes africaines, les féministes africaines. Il y en a beaucoup. Elle vient d'en citer un nom. Moi, j'ai déjà eu des contacts aussi avec beaucoup de femmes africaines, des filles qui sont très jeunes, qui sont sur les réseaux sociaux, qui se mobilisent, qui essaient vraiment de faire changer les choses dans leur pays. Et c'est loin d'être facile, parce que quand on est féministe en Afrique, je peux vous dire que voilà, c'est pas évident. Donc voilà, essayer de trouver des moyens de collaborer ensemble, de faire des actions ensemble. Maintenant, c'est clair que faire connaître l'afroféminisme en Afrique, oui, pourquoi pas, mais voilà, l'afroféminisme, ça ne concerne pas les femmes du continent africain, c'est vraiment propre aux femmes qui vivent en Occident, en fait. Donc ça serait peut-être un peu compliqué. Mais je pense effectivement qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler la question de l'afroféminisme. C'est vrai, elle concerne les femmes qui vivent en Occident, mais on ne peut pas ne pas faire forcément un lien avec ce qui se passe sur le continent africain, parce que beaucoup de femmes noires qui vivent en Europe sont issues de l'immigration africaine. Et quelque part, elles grandissent dans des familles africaines. Certaines sont nées en Afrique comme moi, et dans leur milieu d'origine, eh ben, elles subissent des pratiques qui sont sexistes et qui viennent de là-bas. Donc il y a forcément un lien à faire avec ça, même si forcément c'est deux choses différentes.
Et pour rebondir sur ce qu'Aïchatou vient d'évoquer, c'est important de le dire au niveau conceptuel quand on parle d'afroféminisme, parce qu'il y a souvent la confusion, on pense que c'est, oui, c'est les femmes noires, mais l'afroféminisme comme courant, avec ses outils activistes et ses outils conceptuels et intellectuels et de lutte, en fait, ça s'ancre vraiment dans un contexte occidental, européen. En tant que vraiment au niveau même de l'émergence, quand on parle d'afroféminisme, c'est européen. Donc c'est important de le dire, et c'est un mouvement qui est plutôt diasporique. Donc comme Aïchatou l'a dit, l'afroféminisme en fait en Afrique est un non-sens. Quand je parle à des activistes, elles se définissent simplement comme féministes sur le continent. Féministes tout court. Nous, pourquoi est-ce qu'on insiste sur la notion d'afroféminisme? Parce que nous évoluons dans un contexte où nous sommes soumis à toutes sortes de discrimination et de domination liées à la suprématie blanche. Donc c'est vraiment dans le contexte qui nous concerne qu'il est pertinent de parler d'afroféminisme pour nous différencier d'autres types de féminisme qu'il y a dans les contextes occidentaux où on voit qu'il y en a vraiment de toutes sortes.
Merci. Je ne sais pas si vous avez eu une réponse. Oui.
Oui, je voulais...
Oui.
J'ai pas répondu à ta question encore.
Vous venez de dire, mais... Unique, quand vous parlez de société occidentale, etc., est-ce qu'il n'y a pas de lutte, même par rapport à la propre communauté? Parce que je pense qu'il y a parfois une forme de concurrence entre femmes de la même communauté, où elles ne vont pas se reconnaître dans le discours féministe, où elles seront contre, mais aussi par rapport à un discours très machiste, qui est de la même origine. Donc moi, je me pose la question, est-ce que c'est uniquement face à la domination blanche, ou c'est même en interne?
Alors, c'est...
ta réflexion est intéressante parce que, en tout cas, quand on parle d'afroféminisme et la manière dont nous, on pense nos luttes avec le collectif, il y a bien sûr cette façon de lutter de manière extra-communautaire, donc plutôt liée à l'interaction avec les personnes blanches. Et alors, il y a aussi une façon de nous mobiliser par rapport à des problématiques intra-communautaire. Donc effectivement, il y a cette double dynamique qui est importante que tu évoques et de manière tout à fait pertinente. Et alors, je voulais rebondir sur la question que tu as posée tout à l'heure, qui pour moi est vraiment majeure, parce que quand on parle de mobilisation, quand on parle de personnes qui sont silenciées, invisibilisées, dont on s'approprie la parole est essentielle, en fait. La parole, en fait, c'est une source et c'est une forme de pouvoir extrêmement forte. Et donc, pour parler de notre collectif, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on organise en interne des formations en prise de parole. Personnellement, je suis coach en prise de parole, et donc les personnes qui sont membres de notre collectif suivent la formation en prise de parole. Et ce que tu as dit aussi, on réfléchit ensemble aussi à des stratégies, parce qu'il faut savoir ruser, et donc on établit toute une série de stratégies, parce que, comme tu disais, il y a la question de la confiance en soi, la question de la confiance en soi qui est quand même un enjeu essentiel, surtout par rapport aux femmes racisées, aux femmes afrodescendantes. Et donc, on essaie de trouver toute une série d'approches et de stratégies pour renforcer notre confiance en nous. Le fait de renforcer la confiance en soi renforce la prise de parole, renforce aussi la manière dont on va construire nos luttes. Donc, et il faut savoir aussi qu'on est souvent là, c'est d'un point de vue vraiment sociologique, c'est que déjà, les femmes sont socialisées à moins prendre la parole en public. Donc, elles vont, de façon inconsciente, pas développer les aptitudes essentielles pour pouvoir avoir une aisance et une assurance quand on prend la parole, tandis que les hommes vont être favorisés très tôt. Hein, on voit les instituteurs dans les classes vont davantage interroger les hommes. Et du coup, il y a un déséquilibre. Et avec notre collectif, on essaie vraiment de travailler et faire un rééquilibrage pour pouvoir gagner en impact par rapport à nos luttes et nos visions.
Merci beaucoup. En fait, je pense qu'il est déjà presque 18h, mais je vais quand même prendre une toute dernière question. Enfin, s'il y a une question ou une réaction avant de clôturer.
J'ai une question, c'est par rapport à vos activités, en fait, vous existez depuis 2015, c'est ça l'association, et de manière quotidien ou annuel, c'est quel type d'activité que vous faites, quelle serait une année typique? Est-ce que ce serait beaucoup de formations, des conférences, est-ce qu'il y a d'autres choses?
Il y a plein de choses, il y a différentes choses. On a des rencontres annuelles, on a des actions, mais ce que j'ai envie de dire avant tout, c'est qu'on fonctionne de façon aussi extrêmement spontanée. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne selon l'urgence de notre mobilisation. Un exemple concret, Marielle Franco, qui est une militante afroféministe, antiraciste, donc issue des quartiers populaires, une femme noire lesbienne qui s'est particulièrement mobilisée pour les personnes noires et pour lutter contre la négrophobie au Brésil, a été assassinée. Combien d'associations féministes mainstream se sont mobilisées à Bruxelles? Zéro. Donc pour nous, il était vraiment essentiel de vite s'organiser. Alors on l'a fait avec une autre association alliée pour pouvoir vraiment avoir une action forte pour parler de la mort de cette icône. Donc on regarde notre lutte vraiment une icône, et donc c'est quand elle a été assassinée, c'était vraiment une rupture, une fracture violente par rapport à tout son combat et son combat qui est le nôtre. Et donc qu'est-ce que nous avons fait avec d'autres collectifs antiracistes et d'autres collectifs afroféministes de France? Nous avons rédigé un manifeste que nous sommes partis lire devant l'ambassade du Brésil. Donc là, par exemple, il faut dire que nous avons fonctionné à l'instant présent parce que pour nous, dans notre agenda, dans notre vision, il était essentiel qu'on le fasse. Donc on ne peut pas vous dire qu'il y a un agenda vraiment institué, mais tout va dépendre aussi de ce qui va se passer. Quand il y a un jeune garçon qui est assassiné, on lui pointe un couteau, etc., ben on va se mobiliser parce que pour nous, la lutte contre la négrophobie est intrinsèquement liée à nos luttes. On n'est pas juste femme ou juste noire. Et donc, par exemple, Le 25 mars, il y a une mobilisation nationale pour les droits et les luttes des femmes et une mobilisation contre l'esclavage en Libye avec notre collectif. On s'est séparés. Certaines ont été à l'une et l'autre manifestation parce que pour nous, les deux combats sont essentiels. Donc, on fonctionne beaucoup comme ça. Après, oui, il y a nos formations en interne, mais voilà, il suffit de suivre notre page et on diffuse un petit peu tout ce qu'on est amené à faire et à nous mobiliser.
Merci beaucoup. Est-ce que... Oui, ah ben, j'allais
dire... Moi, j'avais une petite demande quand même. Alors, comme on est des afroféministes sur ce panel, je voulais vraiment qu'une femme noire prenne la parole si elle a une question, si elle a une remarque, parce que pour nous, c'est essentiel. Et je voulais le dire, ben, ça s'est passé comme ça, mais pour nous, c'est votre voix qui est prioritaire par rapport à notre combat. Donc, s'il y en a une qui veut témoigner, qui a une question à poser, c'est important pour nous, vraiment, au niveau de notre implication, de notre mobilisation, d'avoir aussi vos retours. Merci beaucoup.
Oui, voilà.
J'ai pas spécialement une remarque négative, mais c'est plutôt pour vous remercier d'être toutes ici, parce que c'est quand même relativement rare de trouver des femmes noires ou même juste des personnes noires ou afrodescendantes, que ce soit dans les médias ou dans différents événements. Et donc, c'est une grande chance d'avoir l'occasion de vous entendre et d'entendre parler de nos luttes. Parce que, personnellement, j'ai vécu dans un milieu qui est relativement blanc, enfin quasiment 99% blanc. Et c'est difficile de trouver des personnes qui partagent le même type de problème et à qui on peut parler, qui vont pas, comme vous l'avez dit, dire que c'est pas un vrai problème, qu'on l'imagine et qu'on est trop... Pas comme vous l'avez dit, que c'est... Ouais, exactement. Et donc, oui, ça fait extrêmement plaisir d'avoir des personnes comme vous qui en parlent.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter une dernière chose ou, Non. Eh bien, voilà. Donc, il est déjà l'heure. Malheureusement, ça passe très vite. Donc, on va clôturer ici. Je voulais... Juste remercier les intervenantes d'avoir participé à cet échange. Et je voulais aussi excuser Safia Kessas qui devait être présente aujourd'hui dans le panel, mais qui n'a pas su finalement se libérer. Voilà, ce que je propose, c'est qu'on clôture ici, mais qu'on diffuse quand même un extrait vidéo, le tout dernier qui devait être passé pour ceux que ça intéresse. Encore, oui.
Oui. J'avais une micro-intervention. Je voulais te remercier, toi, Bethel, d'avoir modéré le panel. Je sais que ce n'est pas facile, donc merci à toi. On peut t'applaudir aussi. Merci.
Encore un grand merci à vous, vraiment, pour vos interventions. Voilà.
Je fais du doublage et j'ai commencé à travailler parce que ils cherchaient des noirs pour doubler des noirs. Dans la tête des gens, j'ai une voix de noir, alors que j'ai absolument pas une voix de noir. Et moi, je sais que l'exemple le plus concret que j'ai, et du coup, j'en avais parlé avec une nana qui m'a dit « Mais si, vous avez des voix noires, c'est comme la meuf qui double Whoopi Goldberg. » Alors, je lui ai répondu « La meuf qui double Whoopi Goldberg, déjà elle est métisse. Donc est-ce qu'elle a plus une voix noire ou plus une voix blanche, je sais pas. Et la nana qui double Whoopi Goldberg, elle double aussi Courteney Cox dans Friends. »
J'ai un exemple tout bête, je sais pas si t'as déjà regardé New York, Session Criminelle. Il y a une commissaire, donc américaine, hein, qui vit dans Harlem, elle a un accent antillais dans la version française. Donc c'est vraiment, on va résoudre cette affaire. Alors que la fille, elle est de Harlem, et elle est commissaire américano-américaine, quoi.
Si je ne savais pas faire cet accent, je ne travaillerais pas. Et alors du coup, est-ce qu'aussi le fait que tu fasses l'accent africain, en fait, toi tu fais l'accent ivoirien?
Oui, d'une certaine manière, oui.
Parce qu'il y a ça aussi, oui, c'est oui, que non, quand on nous demande ça, parce que moi on me l'a demandé aussi, et moi je me disais, enfin, l'Afrique c'est grand, tu vois, je veux dire, mais les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, ils n'ont pas du tout le même accent en fait.
Mais je veux dire, pour les Blancs, ils s'en foutent quoi. À partir du moment que ça sonne, africain, ou ils n'en ont rien à foutre de savoir d'où ça vient quoi, tu vois.
Et ça, c'est un truc, d'ailleurs, c'est un processus que tu vois beaucoup aussi dans les films, c'est-à-dire qu'on demande à des comédiennes noires, et d'ailleurs, c'est toutes des petites nénettes qui ont grandi ici, donc qui parlent français sans accent, de contrefaire un accent africain qu'on n'a absolument pas. Et puis en plus, c'est même de dire un accent, ça veut rien dire. Il y a un milliard d'ethnies, un milliard de langues, donc les accents sont pas du tout les mêmes en fonction de là où tu vas. Donc cette espèce de mythe de l'accent, c'est une bêtise aussi. Donc moi, quand on me dit « fais l'accent africain », je fais un mélange de ce que j'entends, ce que j'ai cru entendre, et de ce que j'ai l'impression qu'on attend de moi aussi, tu vois.
C'est comme si tu disais « fais l'accent européen ». Ouais, mais l'Europe, c'est un continent, quoi. C'est comme l'Afrique, donc du coup, qu'est-ce que tu veux ? Et on est surtout, c'est quoi le propos, quoi ? C'est pour défendre quoi ? C'est vraiment nécessaire dans ton histoire ? Est-ce que ça a une portée ? C'est quoi ? C'est encore pour montrer que les Noirs, c'est que...
C'est l'immigré... femme de ménage... bon, sans papier, le balayeur pour les hommes, des trucs comme ça. Fin... Ah oui, les prostituées aussi. Ouais. Démunies, prostituées, droguées.
Maintenant, effectivement, j'ai quand même envie que le monde, en tout cas audiovisuel, ressemble à celui dans lequel je vis. C'est-à-dire que d'avoir une diversité noire. Et non pas que des sans-papiers en difficulté, immigrés, etc. dans les films. J'ai envie qu'il y ait des étudiants, des cadres aussi, des gens de diverses classes.
C'est comme chez les Blancs. Il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont en banlieue. Les Noirs, c'est comme les Blancs, c'est comme les Rebeux, c'est comme les Asiatiques. Il y a plusieurs classes de personnes, quoi. Enfin, tu vois, et c'est vrai que c'est chiant de voir toujours que les Noirs, c'est des Noirs de banlieue. Mais même, des Noirs en banlieue, bah, il y en a plein, on le sait tous très bien. Mais les Noirs en banlieue qui ont des pavillons, ça existe. On n'est pas tous dans des HLM, tu vois, rien que ça. On a aussi des petits jardinets, des voitures, et on n'est pas tous en train de fumer de la weed dans le jardin ou de faire des trucs chelous, quoi, merde, tu vois. Tu vas à l'école, il y a des Noirs qui sont bons élèves aussi. Il y a des, enfin, c'est ça le truc qu'il faut montrer, c'est que c'est pas genre on va tous se retrouver à faire un CAP et à, comme dans Bande de filles, à se dire, bah, ma vie elle est foutue, je vais aller me prostituer dans le, tu vois.
Après, au cinéma, Alexandre Dumas, incarné par Gérard Depardieu.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un problème ?
Bah oui, parce qu'Alexandre Dumas était Quarteron, donc en fait, Gérard Depardieu, pas du tout. Donc là, il n'y a aucune trace, en fait, de la négritude de Dumas.
Je sais que, par exemple, moi, j'adore les films de super-héros, et je suis une grande fan d'X-Men, parce qu'il y a le personnage de Mystique, et que depuis que je suis toute petite... J'ai été mystique. C'est super bête, hein, mais c'est parce que dans tous les films que je connais, il y avait Batman, il y avait Superman, il y avait Wonder Woman. Wonder Woman, elle me plaisait pas forcément plus que Superman. Hein. Wonder Woman a été certes une femme, mais moi, elle était blanche, on avait juste un petit peu plus de proximité. Mais pour moi, la vraie personne à laquelle je pouvais m'identifier, c'était Mystique, parce que c'était une femme, et parce qu'elle était noire, et parce qu'en plus, elle contrôlait le vent, c'était génial.
S'il y a que des noirs, tout de suite, ça va être... par exemple, si c'est un film où il y a beaucoup de noirs, oui, c'est un film de noirs. Mais les films, la plupart que je vois, il n'y a que des blancs, et voilà. Et aussi, le pire, c'est que si on te dit que c'est un film de noirs, donc il n'y a que les noirs qui peuvent y aller. Mais moi, depuis toute petite, je vois des films de blancs où il n'y a que des blancs, et je peux m'identifier, en fait.
Merci, Bernard. Ouais. Ça crie dans mon oreille. Juste un petit mot très très rapide. Merci à tous d'avoir tenu le coup dans la chaleur et merci surtout à nos 4 et 3 intervenantes qui m'ont accepté d'être avec nous ce soir.